Bonsoir et bienvenue à cette première série de trois soirées qu'on organise en partenariat avec l'Observatoire de l'espace du CNES. Trois soirées qui vont être consacrées à un décryptage des activités spatiales. Donc ce soir, nous allons traiter du mensonge des origines des activités spatiales avec deux intervenants, Yves Lemanner qui est historien et directeur de la Coupole, qui est le Centre d'Histoire et de Mémoire de Saint-Omer, et avec Christian Vanpouille du Laboratoire de Recherche Balistique et Aérodynamique. Et la soirée sera animée par Michel Albergonti, qui est journaliste et producteur à France Culture. Avant de passer la parole à ces trois intervenants, nous allons entendre une lecture d'un texte qui s'appelle « L'espace coupé ». C'est un texte d'un écrivain slovène qui s'appelle Boris Pahor, et qui a été écrit dans le cadre d'ateliers d'écriture organisés par l'Observatoire de l'espace du CNES, dans le cadre pour une revue, pour la revue Espace, pour un numéro hors série de la revue Espace intitulé Fiction européenne, où 30 écrivains européens ont écrit des fictions sur l'espace, sont des procédés. Créé par l'Observatoire de l'espace. Donc je passe tout de suite la parole à François Raison, qui est comédien et qui va nous lire le texte de Boris Pahor.
L'espace coupé, Boris Pahor. La conversation avait lieu dans le noir, le courant ayant été coupé par l'arrivée des avions alliés. C'était à l'infirmerie du camp de Dora, dans une baraque au sommet d'une pente boueuse sur le replat bourbeux où il y avait d'autres baraquements destinés aux malades. Cela se passait peu de temps avant que les camions ne commencent à décharger les squelettes sortis des trains et aspergés de chaux vifs que les prisonniers de notre groupe devraient porter en haut de la colline où brûlait sans cesse un grand bûcher. En fait, cela se passait exactement un mois plus tôt. Moi, on m'avait ramené de Harzungen, à cause de mon hémoptysie. Je n'y étais resté que quelques jours. Le soir, j'avais coutume d'aller voir les infirmiers auxiliaires venus comme moi de Dachau, où le docteur Arco nous avait formés à la hâte pour ce travail peu commun d'infirmier dans les camps de la mort. Ils étaient en train de refaire les pansements des pieds au moment où la sirène avait retenti quelque part en contrebas, lorsque le courant fut coupé. Ils se sirent alors sur les tabourets où un instant auparavant, les malheureux posaient leurs pieds avec difficulté. Aide-infirmier, aux poumons atteints par la tuberculose, j'étais l'un d'eux. Mais à ce moment-là, j'étais uni à eux dans une camaraderie particulière, car si nous étions solidaires en tant que Slovènes, c'est également notre tâche humanitaire qui nous rapprochait. Miran parlait du travail dans les tunnels où l'on montait les fusées V2. Il évoquait son activité d'infirmier dans le ventre de la montagne, les pansements effectués dans la baraque ou encore l'ambiance qui régnait sous terre où les détenus devaient contribuer à mettre au point ces cylindres volants porteurs de mort. Bien sûr, de temps en temps, il réussissait, grâce à un plan bien préparé, à saboter tout un ensemble de fusées censées traverser la Manche. Sabotage suivi d'horribles manifestations de vengeance, comme récemment, quand on avait pendu un groupe de Russes sur un rail incliné. Comme d'habitude, leurs compatriotes avaient contemplé le rite mortuaire un sourire aux lèvres. « Il souriait pour de bon ?» demanda Stan en frottant ses galoches en toile sur le plancher. « Il regardait les soldats allemands d'un air hautain et railleur, » répondit Milan. Il était debout et, dans le noir, nous devinions sa haute silhouette, tandis que sa voix nous dominait. Pour le bourreau, c'est un échec cuisant, ce sourire de la victime face à la mort, dis-je. Là, Miran reprit de plus belle. C'est vrai. C'est la preuve que la bestialité du bourreau est stérile. Et pour cette raison, ils ont rempli le tunnel de leurs hurlements, encore plus inhumains que d'habitude. Surtout qu'on entendait leur secrétaire pousser des cris perçants devant ces jeunes hommes pendus à des crochets sur le rail incliné. Car en plus de nous, ils avaient rassemblé les leurs pour que tous voient quel salaire méritaient les actes de sabotage. Nous formions ainsi un magma d'uniformes zébrés et de civils encerclant les pendus, sous la lumière blafarde des ampoules et dans l'éclat des mitrailleuses pointées à l'horizontale sur nos échines. « Tu dis que les femmes allemandes poussaient des hurlements ?» demanda Nico. Si elles étaient capables de vociférer, cela signifie au moins qu'elles étaient restées des femmes, ai-je ajouté comme pour moi-même. Milan se mit à marcher et seuls ses pas troublaient le silence de nos pensées et de nos paroles. Quand il s'arrêta, on avait l'impression qu'il écoutait à la fois un écho au fond de lui-même et le souffle retenu de la nuit. À quatre, nous formions un ensemble d'aides infirmiers en fin de course, fatigués de lutter contre l'insatiable mort. Milan ralentit de nouveau le pas. Puis il dit « Là-bas, il y a aussi une baraque qui fait infirmerie pour accueillir les blessés et les malades, vous le savez. Un jour, c'était juste après ces pendaisons, je me trouvais seul dans le baraquement. Et voilà que la porte s'ouvre et laisse le passage à une jeune fille bouleversée. Elle s'arrête un instant à l'entrée, comme si le vacarme qui remplissait le tunnel lui manquait soudain. Puis elle se précipite jusqu'à mon bureau pour y poser un morceau de pain qu'elle avait prélevé sur sa ration militaire. Je me lève d'un bond. « Je n'en veux pas !» lui dis-je en criant et en m'approchant d'elle. « Je n'en veux pas !» Milan se tut un moment, puis il hurla presque « Et je le lui ai rendu !» La pauvre, murmura Stan d'une voix qui avait quelque chose de paternel. Avec nous aussi, il avait cette attitude toute de patience et de compréhension, digne de ses cheveux blancs. Puis il ajouta, qui sait combien de temps elle avait lutté contre sa peur avant d'avoir enfin le courage de se décider à porter son morceau de pain à un prisonnier. « Je ne voulais pas d'aumône !» protesta Milan furieux. « Dommage, dis-je. Mais ce n'était pas te faire l'aumône. Ça aurait été trop simple. » trancha Milan de sa voix claire de jeune homme que la vie n'a pas encore touché de ses doigts sales et où se mêlait toute la profondeur de l'espoir déçu. Et l'on sentait dans le noir sa haute silhouette se tourner, comme pour obliger le corps à se cabrer dans le même mouvement de révolte que sa pensée. « Ne fais pas l'enfant, » marmonna Stan. Dans cet échange, il était devenu un père plein de vivacité et d'énergie dont les cheveux auraient blanchi prématurément. Il est sûr qu'ils seront obligés d'en faire beaucoup plus pour l'humanité s'ils veulent un jour se racheter. Mais ça ne change rien au fait que tu t'es conduit comme un gamin en t'en prenant à elle. C'est toi qui lui aurais fait l'aumône si tu avais accepté son pain, dis-je. Et elle t'en aurait été reconnaissante. Stan posa une autre question. Mais est-ce que tu te rends compte du risque qu'elle avait pris en venant te voir? Je le sais. Murmura Milan. Elle a pris sa décision après l'horreur de ses pendaisons. C'était Nico qui parlait, comme s'il avait réussi à trouver une explication logique après une longue réflexion. « Je le sais bien, » confirma Milan. « Mais nous vivons dans l'horreur depuis un an et demi. Ce morceau de pain m'était apparu comme une moquerie impardonnable à l'égard de ses pendus. » Le silence qui suivit nous enveloppa dans une unanimité nouvelle. Milan avait réussi à exprimer son doute et à manifester son angoisse. Mais comme nous étions invisibles les uns pour les autres, nos pensées dans les ténèbres à proximité des tunnels étaient comme une vérité silencieuse qui provoquait une tension palpable. Nous nous trouvions au milieu de la nuit sur le territoire de la mort et nous ne savions pas si quelque part apparaîtrait une lueur d'avenir. Cependant, réunis autour de ce morceau de pain de munitions et de la révolte de Milan, nous étions en train d'essayer de nous hisser sur le radeau du salut que la nuit avait doucement avancé sous nos pieds. « Elle t'a compris, bien sûr, » finit par conclure Stan. « Tu penses vraiment ? Elle avait compris avant même de t'avoir apporté le pain, » dis-je. Quelque part au-dessus de nous, qui étions assis, Milan se souvenait à voix haute. Elle est repartie, soumise et brisée, sans un regard à gauche ou à droite quand elle passait la porte, pour ne pas se faire remarquer par un SS. Nous gardions le silence comme pour diminuer par notre immobilité le danger qu'elle avait couru. Nous savions à quel point celui-ci pouvait être lourd de conséquences. Aujourd'hui, j'ai 95 ans. Et je sais qu'au cours de toutes ces années, on n'a pas voulu beaucoup parler du camp de Dora. Car Werner von Braun, qui y avait utilisé nos déportés comme main-d'œuvre, a été fêté, honoré et décoré, lorsque le progrès technique a permis d'aller sur la Lune. À ce propos, existe également l'importante pièce dramatique « De l'enfer à la Lune » de Jean-Pierre Tiercelin. Or, je pense que l'Union européenne devrait, à l'approche des nouvelles grandes victoires scientifiques dans le domaine spatial, rendre hommage d'une manière bien plus explicite que ne l'avait fait la jeune fille dont nous parlait Miran, aux héros qui, au prix de leur vie, ont souvent coupé le chemin de l'espace aux engins de mort. Traduit du slovène par Antonia Bernard.
Ça marche, oui. Bonsoir à tous. Merci pour ce moment émouvant qui, en fait, sur la fin, établit le lien avec notre débat de ce soir, puisque nous allons parler de von Braun, mais pas uniquement de lui, des V2, mais pas uniquement des V2, mais faire le lien entre cette période noire de l'histoire et puis la conquête spatiale, et en particulier cet événement dont on va fêter les 40 ans, c'est-à-dire la conquête de la Lune, eh bien, c'est pas quelque chose qui est très évident. Et quand aujourd'hui cette réunion est titrée les mensonges de cette période, je crois que vous allez pouvoir constater que le terme n'est pas excessif et qu'en réalité beaucoup de choses nous ont été cachées pendant très longtemps sur cette période, sur la façon dont les alliés, dans une espèce d'urgence étrange au moment même où la guerre n'était pas encore terminée, où l'issue de cette guerre n'était peut-être pas encore complètement acquise, eh bien les alliés avaient déjà prévu le rapatriement du savoir technique accumulé par les Allemands, une avance technique absolument considérable à l'époque, et qui n'est pas du tout passé inaperçu et qui au contraire a été largement récupéré. Et c'est de cela dont on va parler avec nos deux intervenants. Donc je vais tout de suite céder la parole à Yves Le Maner qui va nous brosser le tableau de cette période, de ces choses qui nous ont été largement dissimulées.
Merci Michel. Alors, il est évident qu'il y a seulement 10 ans, il eût été quasiment impossible de vous donner les faits qui vous seront exposés dans quelques minutes. Tout simplement parce que les archives n'étaient pas encore entièrement accessibles, parce que des ouvrages rigoureux n'avaient pas été écrits. Depuis 1997, sont sortis aux États-Unis et en Allemagne un ensemble d'ouvrages qui nous donnent maintenant une vision extrêmement claire, extrêmement argumentée, des 20 premières années qui marquent les origines de la conquête spatiale. Ces 20 premières années sont pour l'essentiel allemandes. Il existe certes des pionniers isolés, des groupes d'amateurs en Union soviétique, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, mais c'est bien en Allemagne que naît réellement l'astronautique. Parmi les ouvrages qui sont sortis aux États-Unis, il faut signaler les travaux de Michael J. Neufeld, qui est le premier à avoir rédigé une histoire globale des origines de la conquête spatiale. Et il a publié, il y a maintenant 2 ans, un ouvrage remarquable, qui est une biographie de Werner von Braun, qui malheureusement n'a pas encore trouvé d'éditeur en France. C'est une biographie non autorisée par la veuve de von Braun, non autorisée par ses enfants, et non autorisée également par une bonne partie de l'establishment astronautique aux États-Unis. Alors, effectuons un flashback, essayons de nous retrouver dans les années 20 en Allemagne, pour voir comment est né ce qui est à l'origine un rêve d'innocence, un rêve pur, le rêve du voyage spatial. L'Allemagne est sans nul doute dans les années 20 la société occidentale la plus ouverte à la culture scientifique, la plus ouverte à la technologie. Il y a une tradition en Allemagne, dans les universités, d'un goût pour la science, un goût pour la technique qu'on ne trouve pas ni en France, ni en Grande-Bretagne, ni aux États-Unis. Et donc naissent dans les années 20 en Allemagne des mouvements d'amateurs de voyage spatial qui rêvent de fabriquer des fusées et un jour de s'arracher à l'attraction terrestre. Ces hommes sont d'une certaine façon des déçus de l'aviation. Parce que l'aviation semble, dans les années 20, avoir atteint des limites, et en particulier, elle a perdu son innocence première dans les combats de la Grande Guerre. Ces groupes d'amateurs, qui apparaissent à Berlin, mais dans d'autres villes de la province allemande, sont composés de gens généralement jeunes, qui n'intéressent ni les universités, ni les grandes entreprises, tant leurs projets paraissent utopiques. Ces petits groupes ont une véritable bible technique entre les mains. Il s'agit d'un ouvrage paru en 1923, rédigé par un auteur germano-roumain nommé Hermann Oberth, qui fournit pour la première fois des éléments techniques relativement élaborés qui tentent à prouver qu'il est possible techniquement de construire des fusées utilisant des carburants liquides et un jour de se lancer à la conquête de l'espace. Ces groupes de passionnés, ceci dit, manquent de tout. Ils manquent d'argent, ils manquent de méthodologie, ils manquent d'organisation. Et donc, leur activité se résout pour l'essentiel à des démonstrations de micro-fusées dans la banlieue de Berlin. On fait payer les matériaux par les participants, par les spectateurs. C'est extrêmement amateur. Ça n'a vraiment pas de visée à long terme. Ceci dit, cette organisation, elle a quand même en son sein des gens qui commencent à percevoir que le rêve peut s'ancrer sur la réalité, parce que la seconde révolution industrielle est arrivée à maturité, aussi bien en termes de chimie qu'en termes d'électricité, d'électronique. Il y a là des ressources qui, combinées, pourraient permettre de répondre aux idées d'Hermann Oberth et peut-être de construire des fusées beaucoup plus élaborées. Or, au début des années 30, les soucis s'accumulent sur ces groupes d'amateurs, tout simplement parce que la crise économique qui frappe l'Allemagne réduit de façon considérable leurs revenus. Et surtout, elle met beaucoup d'entre eux au chômage. Ce qu'il faut signaler d'emblée, c'est que ces groupes d'amateurs sont composés de gens qui appartiennent à des milieux nationalistes, des gens qui n'ont pas du tout digéré la défaite de 1918, pour qui le traité de Versailles est quelque chose d'injurieux pour l'honneur allemand, et qui donc appartiennent aux franges droitières de l'opinion publique allemande. Le second élément qu'il faut voir à côté de ces groupes de passionnés, c'est l'existence au sein de l'armée allemande, de la Reichswehr, d'un petit noyau d'officiers, des artilleurs pour la plupart, qui s'intéressent à partir de 1928-1929 à des programmes de fusées. Au début, ils s'orientent vers des fusées à poudre, très traditionnelles. Mais en même temps, on sent que dans ce milieu, on est ouvert à beaucoup de choses, y compris à la guerre chimique, puisque ces fusées à poudre sont initialement conçu pour envoyer des gaz sur le champ de bataille. Ce n'est qu'à partir de 1930-31 que ces officiers évoluent sur le plan technique, d'ailleurs en observant ce que font les amateurs dans leurs démonstrations du dimanche, et qu'à leur tour, ils s'intéressent à l'opportunité de développer des fusées à carburant liquide. En 1932, ces deux ensembles qui jusqu'alors s'ignoraient, les amateurs d'un côté et les militaires de l'autre, finissent par se rencontrer. Ils se rencontrent par la volonté des militaires. Ces militaires, en effet, en 1932, ont pris la décision de mettre la main sur tous les phénomènes de recherche sur les fusées présents en Allemagne. Et pour cela, ils vont faire leur marché. Ils vont faire leur marché en repérant parmi les amateurs ceux qui leur semblent les plus doués, les plus prometteurs. Et il y a un nom qui se distingue parmi ces groupes d'amateurs, c'est celui d'un lycéen de 20 ans, étudiant de 20 ans, qui s'appelle Werner von Braun. Très rapidement, ses dons ont été repérés en matière de mathématiques et de physique. Il a en plus un background social extrêmement intéressant, puisqu'il vient d'une grande famille de Junkers prussiens, que son père accède au poste de ministre de l'Agriculture dans le gouvernement de von Papen en 1932. Donc ce jeune homme brillant est recruté par l'armée et aussitôt on le met au secret pour préparer une thèse de physique sur l'hypothèse de construire des fusées à carburant liquide. L'année suivante, nous sommes en 1933, Et cette date, vous l'avez compris, c'est bien sûr un tournant décisif, puisque les nazis arrivent au pouvoir, et qu'en quelques mois, une chape de plomb s'abat sur l'Allemagne, une chape de plomb qui vaut également pour les milieux de passionnés de fusées, puisque les militaires obtiennent de la Gestapo l'interdiction totale de mener des expérimentations sur le thème des fusées en Allemagne, l'interdiction de toute publication et de tout contact avec les chercheurs étrangers. Ceci dit, l'arrivée du nazisme au pouvoir offre aux petits groupes de militaires passionnés de fusées des opportunités fantastiques en termes de financement. Parce qu'en effet, le Troisième Reich s'engage immédiatement dans un réarmement massif pour venir à bout du traité de Versailles. Cela signifie que tous les programmes sont abondamment financés, en particulier les programmes d'armes nouvelles, et c'est le cas, bien évidemment, des fusées. Le groupe qui pilote le programme de fusées de l'armée allemande, lui aussi a ce même état d'esprit nationaliste, revanchard, ce même état d'esprit droitier. On y trouve des officiers de haut rang, comme le colonel Becker, le capitaine Dornberger, et ces hommes constituent rapidement un groupe extrêmement actif, un groupe de lobbyistes qui monte sans arrêt au sommet de l'armée, au sommet du pouvoir nazi, qui sait habilement jouer d'une coterie ou d'une autre pour faire avancer ses pions et accroître ses ressources financières. Le pas décisif est franchi à la fin de l'année 1935, lorsque ces hommes obtiennent du pouvoir nazi le financement d'un centre novateur, novateur par sa taille, novateur par le fait qu'on y concentre toute la recherche possible. Ce centre, c'est Peenemünde, sur la côte baltique, et ce centre est abondamment financé par le Reich nazi dans un plus complet secret. Alors, quel est l'objectif de ce centre ? Eh bien, tout simplement, c'est de créer un missile balistique à longue portée. Donc, c'est de créer une arme inédite dans l'histoire militaire, une arme qui est baptisée A4, c'est un nom de code, bien sûr. Et cette arme, elle a été dimensionnée par opposition à ce que l'artillerie classique savait faire. On est parti des performances du canon de Paris qui avait frappé la capitale française en 1918. On a multiplié sa portée par deux, et on a multiplié le poids des livrets par 100. Donc on obtient un projet qui consiste à construire une fusée d'une portée d'environ 250-260 km, apte à délivrer une tonne d'explosifs, et on part de zéro en 1936. En 1936, on ne sait pas faire ce type de fusée dans aucun domaine de la science, dans aucun domaine de la technologie. Or, en 6 ans, entre 36 et 42, l'équipe de Peenemünde, dont Werner von Braun devient l'organisateur, le personnage charismatique, cette équipe est en mesure de réaliser une série de percées technologiques en matière de propulsion, en matière d'aérodynamisme, de guidage, de contrôle, qui permettent de passer du papier à la réalité de l'objet. Comment y parviennent-ils ? Certes, parce qu'ils ont des capitaux à profusion, mais surtout parce qu'ils ont réussi à monter une organisation tout sous le même toit, c'est-à-dire que l'on agglomère au même lieu toutes les disciplines concernées par ces percées technologiques. On fait confiance à des ingénieurs très jeunes. C'est d'une certaine façon un processus assez révolutionnaire, puisqu'on s'affranchit des traditions, on s'affranchit des réseaux habituels de pouvoir scientifique en Allemagne. Toujours est-il que le résultat concret arrive au mois d'octobre 1942, puisque le 3 octobre 1942, une fusée A4 décolle à la perfection. On la retrouve à près de 200 km dans les eaux de la Baltique et on a battu à cette occasion tous les records possibles et imaginables en termes d'altitude, en termes de vitesse, puisque cet engin évolue à pratiquement Mach 5. Donc cette percée technologique considérable, elle n'est pas perçue par le pouvoir nazi comme quelque chose d'exceptionnel sur le plan technique. C'est bien une arme qui est en cours de fabrication. Et il faut bien voir que le contexte historique, le contexte de la guerre, va jouer un rôle déterminant pour les deux années qui viennent, 43-44. Pourquoi ? Tout simplement parce que le cours de la guerre est en train d'évoluer de façon très négative pour le Reich nazi. C'est le moment où les armées allemandes sont mises en échec sur le front Est. C'est le moment où la puissance américaine commence à donner ses premiers effets avec les débarquements en Afrique du Nord. C'est le moment surtout où les bombardiers anglais et américains pilonnent massivement les villes et les usines du Troisième Reich en provoquant des destructions considérables. Ça veut donc dire que pour les dirigeants nazis, la fusée A4 devient une Wunderwaffe, une arme miracle, une arme qui est censée pouvoir inverser le cours de la guerre devenue défavorable. Or, le problème, c'est que cette fusée qui existe à Peenemünde n'est qu'un prototype, éminemment complexe, et qu'il faut maintenant passer à une autre étape qui est celle de la fabrication en série et du déploiement opérationnel. Eh bien, c'est là que se produit le tournant essentiel, en quelque sorte le pacte faustien qui est conclu par l'équipe de Werner von Braun, par l'équipe de Peenemünde, avec le pouvoir nazi, avec l'aspect criminel du pouvoir nazi. Le tournant se produit au mois d'avril 1943, lorsque les dirigeants du programme A4 demandent officiellement à la SS de leur fournir des déportés de camps de concentration pour assembler l'engin dans sa phase en série. Et donc arrivent au mois de juin et au mois de juillet 1944 plusieurs centaines de détenus du camp de Buchenwald. Ce sont des Soviétiques, des Polonais, des Français qui sont mis au travail dans l'usine de série de Peenemünde pour assembler la fusée A4. Et voilà que survient un épisode imprévu. Le 18 août 1944, donc quelques semaines après la mise en place de ce système où il y a un lien direct entre la fusée et le système concentrationnaire, cet épisode imprévu, c'est le raid massif de la Royal Air Force sur le centre de Peenemünde. Alors ce raid, qui a duré quelques heures, a entraîné des destructions conséquentes, mais pas irréversibles. En revanche, il a permis aux dirigeants nazis de comprendre que l'ère du secret était révolue, et qu'il leur fallait donc réorganiser leur plan s'ils voulaient aller au bout de leurs objectifs. Et donc, dans les jours qui suivent l'attaque de Peenemünde du 18 août 1943, les Allemands prennent une série de mesures qui toutes vont accroître le lien entre le programme de fusée, la SS, le système concentrationnaire. Premier élément, les essais de la fusée qui jusqu'alors avaient lieu à Peenemünde sont transférés en Pologne dans un camp SS à Blizna. Deuxième élément, le plus important surtout, il est décidé de transférer la fabrication en série des fusées A4 dans une usine souterraine afin de se prémunir d'éventuels bombardements en plein cœur de l'Allemagne. Et cette usine, elle se trouve près de Nordhausen en Thuringe. On lui donne un nom de code, un nom féminin. Ça arrive souvent dans le système nazi. Cette usine s'appelle la Mittelwerk, l'usine du centre. Et le commando qui va venir travailler là, le commando de déportés, c'est Dora. Et voilà, le rapport est établi avec le texte qui nous a été lu tout à l'heure. Donc nous sommes dans les derniers jours du mois d'août 1943. L'ASS a reçu l'ordre de transformer un dépôt souterrain de carburant en une usine ultramoderne, de faire ça le plus vite possible et de le faire avec une main-d'œuvre concentrationnaire venue à nouveau de Buchenwald. Ce qui veut dire que l'ASS estime que l'urgence, c'est l'aménagement de l'usine et pas du tout l'hébergement des détenus. Ce qui explique que pendant plusieurs mois, les milliers de déportés employés dans le commando de Dora sont hébergés sous terre dans des conditions d'apocalypse en matière d'hygiène. Ils vont subir la violence des SS et surtout le fait qu'ils installent une chaîne ultramoderne, des machines-outils qui pèsent des tonnes et des tonnes, sans le moindre outil de levage. On est toujours dans la contradiction nazie, une apparence d'ordre, une apparence de logique, mais en même temps des incohérences totales. On a prévu le transfert des machines, mais pas les outils qui vont avec pour les lever, pour les faire bouger. Ce qui explique que dans ces mois qui vont de septembre à décembre 1943, la mortalité à Dora est apocalyptique. On l'estime à 6000 détenus qui périssent de dysenterie, de coups, où on les élimine dans des transports vers les camps de l'Est, tout simplement parce que l'objectif est de terminer au plus vite l'usine souterraine Mittelwerk. Les travaux sont achevés et symboliquement, le 1er janvier 1944, sortent de la Mittelwerk de Dora les premières fusées A4 fabriquées en série par des déportés. C'est donc le paradoxe ultime que l'engin le plus techniquement avancé de la Seconde Guerre mondiale soit mis en production dans une usine souterraine, telle une métropolis, par des déportés de camps de concentration en tenue rayée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est qu'en effet, dans les mois qui suivent, la production se développe, elle atteindra au maximum 500 à 600 engins mensuellement, et on s'aperçoit que pour les hommes de Peenemünde, la rationalité de la production de série impose un contrôle. Ce qui veut donc dire que les ingénieurs, qui jusqu'alors étaient isolés dans leur centre de recherche, traités comme des rois sur les rives de la Baltique, vont devoir se déplacer régulièrement dans les galeries de Dora, vont y voir la réalité du travail concentrationnaire, ne pourront jamais ignorer ce phénomène tout au long de leur existence. Ces hommes, eh bien, ça ne leur pose aucun problème moral, parce que lorsqu'on examine leur cursus, la plupart sont membres du parti nazi. Beaucoup sont membres de la SA, plusieurs sont membres de la SS. Et parmi ceux qui ont le pédigré, si j'ose dire, le plus nazi, figure Werner von Braun. Il est membre du parti nazi depuis 1937, il est officier SS depuis 1940. Alors bien évidemment, son engagement dans la SS a été perçu comme un phénomène de convenance. On ne refuse pas une proposition d'entrée à la SS. Mais en même temps, pour lui, ça n'a jamais été un déchirement, parce qu'il croit en cette nouvelle Allemagne, il est concentré certes sur ses programmes de recherche scientifique et technique, mais il le fait consciemment au service du Troisième Reich. Alors, à l'été 1944, la mise en service de l'arme est possible, elle va se dérouler en deux temps. D'abord, un premier contre-temps. Au mois de juin, ce n'est pas la fusée à longue portée qui est prête la première. C'est une autre arme nouvelle, beaucoup plus simple techniquement, qui a été développée également à Peenemünde par les équipes de la Luftwaffe, c'est la bombe volante V1. La bombe volante V1 commence ses opérations le 13 juin 1944 contre Londres. Pourquoi ce nom de V1 ? V pour Vergeltungswaffe, l'arme de représailles, censée être une représaille au bombardement allié sur les villes allemandes, numéro 1. Et donc, lorsque la fusée A4 entre à son tour en service, nous sommes le 8 septembre 1944, elle est baptisée V2, Vergeltungswaffe 2. On ignore souvent, on l'a su qu'en 1992-93, que la première fusée opérationnelle tirée par l'armée allemande ne l'a pas été contre Londres, comme on le pensait, mais elle l'a été contre les faubourgs de Paris, puisque la première s'est écrasée sur Maison-Alfort, à Charentonneau, le 8 septembre 1944, c'était quelques jours après la libération de Paris. C'était une sorte de fureur de Hitler qui avait constaté que la ville n'avait pas été anéantie, contrairement à sa demande, et qui donc a tenté d'envoyer un signe destructeur, mais ça n'a duré que quelques semaines. Un second engin a frappé les faubourgs de Londres le même jour, 8 septembre 1944, et ensuite, une campagne au long terme a été menée par l'armée allemande avec des unités mobiles installées dans les villes de Hollande. Elles étaient totalement impossibles à identifier et à anéantir. Elles s'installaient dans les rues de La Haye. On dressait les fusées en quelques minutes. Il fallait 20 à 25 minutes pour préparer le tir. On en lançait deux ou trois. On changeait de quartier. Et donc, ils ont mené cette campagne de destruction entre le mois de septembre 1944 et le mois de mars 1945, sans interruption, avec deux cibles majeures, Londres, bien sûr, et la ville d'Anvers, puisque Anvers était devenu le port principal par lequel entrait la logistique alliée sur le continent à la fin de l'année 1944, et on estime aujourd'hui que 6000 civils ont été tués par des V2, aussi bien à Londres qu'à Anvers. On arrive maintenant à la partie finale de la guerre. Nous sommes dans les premiers jours de février 1945. La poussée soviétique devient considérable sur le front de la Vistule, sur le front polonais. Et donc, il est décidé, en février 1945, d'évacuer les équipes de Peenemünde. Il en est de même, au début du mois d'avril, pour l'usine souterraine Mittelwerk, pour le camp de concentration de Dora, puisque les SS prennent la décision, le 4 et le 5 avril, de faire partir sur les routes et par le chemin de fer les quelques 20 000 détenus qui se trouvent dans le camp et dans ses annexes. Et c'est dans cette période-là que la mortalité a été la plus forte, tout simplement parce que le système concentrationnaire est en pleine désintégration. Ça fait des semaines qu'on ne mange plus correctement dans ces camps. Ça fait des semaines que les SS tabassent à tout va les détenus. Ça fait des semaines d'usure physiologique. Et donc, des centaines et des milliers de détenus périssent dans les dernières semaines de la guerre, dans ce qu'on a appelé les marches de la mort, les marches d'évacuation des camps de concentration. Or, au moment où se déroulent ces marches de la mort, eh bien, Von Braun, lui, est en train, soigneusement, de préparer son avenir. Il le prépare méthodiquement, il choisit son point d'arrivée, c'est les États-Unis, et le 2 mai 1945, dans une petite ville de Bavière, il se rend aux services secrets américains qui le connaissent, ils connaissent parfaitement son nom, ils connaissent parfaitement son savoir et ses talents. Et donc, il arrive avec, dans la corbeille de mariage, d'une part, une centaine de V2 qui ont été retrouvés intacts dans les galeries de la Mittelwerk par les services américains, et surtout, l'ensemble des plans techniques du V2 que Von Braun avait pris soin de mettre à l'abri comme une monnaie d'échange. Et dans les semaines qui suivent, commence une étonnante captation d'héritage technologique dans laquelle sont impliqués les quatre alliés qui gagnent la guerre, français, anglais, soviétiques et américains, se livrent une véritable course-poursuite dans l'Allemagne occupée pour mettre la main sur des fusées, sur des ingénieurs, sur des documents techniques. Ceci dit, la récupération de l'héritage de Peenemünde se fait de façon très variable selon les nations. Dans le cas britannique, c'est très ambigu, parce qu'ils ont été, eux, victimes du V2. Et donc, il y a à la fois la volonté de poursuivre les responsables militaires du programme, ce qui fait que le colonel Dornberger, qui a mené aux côtés de Von Braun les équipes de Peenemünde, passera 2 ans de sa vie dans une geôle britannique. Après, on le libérera, on évitera le procès, parce que beaucoup craignaient le parallèle entre les attaques terroristes sur Londres par les V2 et les V1 et les bombardements stratégiques sur les villes allemandes. Donc on le renverra ensuite aux États-Unis. Et le second élément qui fait que les Britanniques ne vont pas poursuivre plus loin, c'est qu'il faut imaginer l'état de ce pays en 1945. L'Angleterre, c'est un pays qui est ruiné. C'est un pays qui, en plus, a un prestige considérable lié à la Royal Air Force, qui a un bombardement stratégique qui est dominant sur la planète. Donc les Britanniques choisissent en 1945 de ne pas accepter l'héritage de Peenemünde. Ils vont le laisser à leurs alliés. Le second cas, c'est celui des Soviétiques. Il est totalement différent. Les Soviétiques, dès le début de l'année 1945, ont créé au sein de leurs forces armées une mission spéciale pour identifier tous les ingénieurs et tous les techniciens du programme allemand qui pourraient leur être utiles. À la tête de cette mission se trouve un ingénieur de très haut niveau qui s'appelle Sergueï Korolev. Et de façon très ironique, Sergueï Korolev vient d'être libéré du goulag par Staline. Ce qui veut donc dire que, voyez, le péché concentrationnaire, on va le trouver de façon majeure dans le camp allemand, mais on le trouve aussi, d'une certaine façon, dans le camp soviétique. Donc Korolev suit les armées soviétiques qui libèrent l'Europe de l'Est puis l'Allemagne, et c'est lui qui va opérer une sélection très pertinente parmi les ingénieurs qu'ils ont pu retrouver. Ils vont les transférer en Union soviétique, également avec des fusées. Ils essayent des fusées en 1947, en 1948, pour comprendre comment ça fonctionne. Ils pressurent le savoir des ingénieurs. Et en 1950-51, lorsque ce savoir a été capturé, eh bien, on les renvoie en RDA, où ils termineront pour la plupart leur carrière dans des instituts de seconde zone. Le cas français, j'en dirai pas beaucoup, parce que Christian va vous donner les clés du problème. Le cas français, c'est un cas de discrétion, où on essaye de cacher par beaucoup de moyens que l'on a recours à cette main-d'œuvre exceptionnellement qualifiée de l'équipe de Peenemünde. Reste bien sûr le cas majeur, le cas américain. Alors le cas américain, il s'explique tout simplement d'abord par la qualité et le nombre. La qualité, c'est Von Braun, et le nombre, c'est 120 ingénieurs qui sont transférés très discrètement aux États-Unis entre septembre et novembre 1945. Et de façon presque symbolique, on les envoie dans une base ultra secrète de l'US Army, qui est exactement l'inverse de Peenemünde. Autant Peenemünde était au nord de l'Allemagne, autant White Sands est au sud des États-Unis. Autant Peenemünde, c'était un climat froid et humide, autant White Sands, c'est chaud et sec. Donc dans cette base qui, comme par hasard, est situé pas bien loin de Los Alamos où fut développée la bombe atomique américaine, eh bien on retrouve à la fin 1945 Werner von Braun et son équipe qui sont devenus des agents, des ingénieurs au service de l'US Army. Et en quelques mois, par son savoir, par sa capacité d'organisateur, par son sens de la communication politique et militaire, Werner von Braun devient le principal organisateur des programmes de missiles de l'US Army. Ensuite, sa carrière, il l'a bâtie à Huntsville, dans l'Alabama, à partir de 1950, où il devient le directeur technique de l'arsenal Redstone. Puis ensuite, à partir de 1957, après l'humiliation subie par les Américains lors du succès soviétique de Sputnik, il devient le premier organisateur de lancement de satellites avec Explorer aux États-Unis. Et bien sûr, dans les années 60, c'est lui qui est le concepteur principal de la fusée Saturn V, avec laquelle on enverra Neil Armstrong sur la Lune en 1969. Alors ceci dit, Werner von Braun, qui est décédé en 1977 d'un cancer, a fini par être rattrapé à titre posthume par son histoire nazie. Alors comment ? On savait depuis 1945 l'intégralité de ce passé. On le connaissait par les archives capturées, on le connaissait en détail par les interrogatoires des services secrets américains et britanniques, mais ça a été tenu strictement secret. De façon symbolique, en 1947, lorsque se tient à Dachau, près de Munich, le procès des SS criminels du camp de Dora, les Américains refusent de produire Werner von Braun comme témoin. Il est devenu intouchable, on est entré dans la guerre froide, l'ennemi est différent, donc on ne touchera pas à ce passé. En 1955, Werner von Braun est naturalisé américain, ce que normalement la loi américaine interdit de par ses origines SS, de par ses origines nazies. Il va terminer une carrière extrêmement brillante. La seule chose qu'on ne lui accordera pas, c'est de faire partie des administrateurs de la NASA. C'était un petit peu trop demandé. Alors comment est-il rattrapé par l'histoire ? Il est rattrapé d'abord par le bloc soviétique. Dans les années 60, les soviétiques distillent des informations sur le passé nazi de von Braun. Mais il a beau jeu de répondre, c'est de la calomnie. Et il a un second argument qui va servir pendant une trentaine d'années, qui est celui du bouc émissaire. Ce bouc émissaire, c'est que les hommes de Peenemünde ont très vite compris qu'il leur fallait eux-mêmes écrire leur histoire. Et dès 1950, Walter Dornberger, qui est l'alter ego militaire de von Braun, publie une histoire de Peenemünde. C'est un conte de fées pour enfants. On y voit de formidables savants pacifistes qui sont réduits à travailler pour des pervers nazis, qui veulent vraiment pas faire d'armes mais ils n'ont pas le choix, qui n'ont qu'une idée en tête, c'est le voyage spatial. Dans cet ouvrage, qui a eu un très gros succès, aussi bien aux États-Unis qu'en Allemagne ou en France, pas une seule fois n'est évoqué le nom de Dora, pas une seule fois n'est évoqué le travail concentrationnaire. Et la SS devient le bouc émissaire. Tout simplement parce qu'au mois de mars 1944, Werner von Braun a séjourné une dizaine de jours dans les geôles de la Gestapo de Stettin, non pas par antinazisme aucun, mais tout simplement parce qu'il était l'objet d'un marchandage entre l'armée et la SS. Et donc il a réutilisé cet argument après-guerre pour se faire passer comme un joyeux savant qui avait été vraiment soumis à la dictature nazie. Alors il a été rattrapé in fine par les historiens, lorsque les archives sont devenues du domaine public en 1985-86, rattrapés par les journalistes qui ont retrouvé parmi les survivants de son équipe aux États-Unis certains d'entre eux qui avaient eu un comportement extrêmement violent sur les chaînes de montage de Peenemünde et sur les chaînes de montage de Dora, en particulier Arthur Rudolph, qui a été dénaturalisé américain en 1992 et renvoyé en Allemagne. Et enfin, ils ont été rattrapés par les déportés de Dora, par des hommes comme ceux qui ont rédigé le texte lu tout à l'heure, par des Français en grande partie, qui ont entrepris dans les années 90 d'écrire l'histoire de la face sombre de la conquête spatiale, en particulier un ouvrage magnifique, l'histoire du camp de Dora, rédigé par André Cellier, qui fut l'un des déportés qui assembla les V2 sur les chaînes de montage.
Merci Yves Lemener. Déjà pas mal de révélations, mais il manque le côté français. Et le côté français, c'est Christian Vanpouille qui va nous le dévoiler en détail, c'est-à-dire la suite finalement de cet exode des techniciens allemands également en France pour y bâtir le début de l'Europe spatiale, d'une certaine façon. Christian Vanpouille.
Donc, effectivement, en France, il y a eu également un apport d'ingénieurs et techniciens allemands. Et comme l'a dit Yves Le Maner, après la guerre, on a utilisé les savants allemands. Mais cette aventure spatiale va démarrer au LRBA hein, dans les années 1946, et les techniciens allemands vont y jouer un grand rôle. Alors, beaucoup de réalisateurs de documentaires, de films historiques sont venus au LRBA pour s'informer sur les débuts du spatial en France. Et à chaque fois, il est ressorti des documents qui nous ont un peu déçus, parce qu'à chaque fois, on parle de l'aventure américaine, des ingénieurs allemands, de l'aventure soviétique, des ingénieurs allemands. On parle très rarement des ingénieurs allemands venus à Vernon et qui ont vraiment débuté cette conquête spatiale. Alors effectivement, les travaux des soviétiques ou des américains sont beaucoup plus importants et beaucoup plus médiatiques que celles réalisées à Vernon. Mais enfin, la France n'a pas à rougir, je dirais, des travaux qui ont été faits dans le domaine de l'aventure spatiale. Parce qu'en effet, le 26 novembre 1965, le lanceur Diamant, qui est une retombée directe des travaux pour la force de dissuasion française, place sur orbite le satellite Astérix. On est en 65. La France devient la troisième puissance spatiale. C'est 8 ans après les Soviétiques, 7 ans après les Américains. Le retard n'est pas considérable. Surtout que la France, je dirais, n'a pas l'aiguillon de la guerre froide. Les Soviétiques, comme les Américains, ont cette guerre froide qui amène beaucoup d'argent dans cette aventure spatiale et aussi des moyens humains très, très importants. De plus, les Français n'ont pas récupéré autant d'ingénieurs et techniciens allemands. Ils n'ont pas récupéré de V2. Ils n'ont récupéré que des pièces. Donc, au départ, la France a déjà un gros handicap. Mais comment tout ça va démarrer? Alors, comme l'a dit Yves Le Maner, tout va démarrer à Paris, le 8 septembre 1944. Ma maison Alfort, une V2 va tomber. 21 impacts seront relevés sur la région parisienne jusqu'au 8 octobre. Donc pendant un mois, Paris va être bombardé. C'est la première capitale bombardée par un missile balistique. Et un personnage va jouer un rôle important, c'est Henri Moureux. Il est le directeur du laboratoire municipal de Paris. Il est conseiller technique à la défense passive. Et c'est lui qui va se rendre sur le lieu d'impact du V2. Et il va découvrir, il va prendre conscience de l'importance de cette arme nouvelle. Il va récupérer les morceaux, les analyser, transférer, en redessiner des plans, les faire passer aux Américains, aux Alliés. Et Henri Moureux va jouer un rôle vraiment important dans ses débuts de la conquête spatiale. C'est lui qui va convaincre le gouvernement français de l'importance des fusées, surtout dans le domaine militaire. Il va faire une description et une analyse du concept de dissuasion dès 1945-46 qu'il va transmettre au gouvernement. Ce principe de dissuasion est basé sur l'utilisation de la V2 avec l'arme atomique. Après avoir convaincu le gouvernement français de l'importance des fusées, ce gouvernement va créer de nombreuses associations, enfin de nombreux organismes. Le GOPA, le groupe opérationnel des projectiles autopropulsés, qui va le créer en 1945. C'est Henri Moureux qui le crée. Et ce groupement, ce groupe opérationnel, va permettre de suivre en Allemagne l'avance des Alliés et de recruter, de récupérer les pièces. C'est grâce à cette organisation que la France va être présente dans la récupération des savants et des matériels allemands. Quelques mois plus tard, le gouvernement va créer le Centre d'études des projectiles autopropulsés, le CEPA, et Henri Moureux en devient le directeur. Et quelques mois plus tard, c'est le laboratoire de recherche balistique et aérodynamique de Vernon qui est créé. La création de tous ces organismes correspond à l'embauche des techniciens allemands ayant travaillé à Penmune 2 ou pour Penmune 2. Et cette embauche, elle est due au général de Gaulle, puisque le général de Gaulle déclare dès 1944 il y a lieu de faire transférer en France les scientifiques ou techniciens allemands de grande valeur, pour les faire interroger à loisir sur leurs travaux et éventuellement les engager à rester à notre disposition. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Très rapidement, la France va recruter les 28 aérodynamiciens de Köchel. Comme l'a dit Yves, quand le Penmune est bombardé en août 1943, on va très rapidement déménager les moyens d'essai, certains moyens d'essai, et en particulier la soufflerie. On va la mettre en Bavière, à Köchel, dans le sud de Munich. Les aérodynamiciens allemands vont suivre. Et les Français vont récupérer ces aérodynamiciens. En France, le conflit n'est pas encore terminé, on n'a pas de place pour les accueillir. Et on va rassembler ces 28 aérodynamiciens à Köchel, 28 aérodynamiciens de Köchel à Emmendingen, à la frontière franco-allemande. Et on va leur demander de concevoir et d'assurer la surveillance des travaux pour une soufflerie. Cette soufflerie supersonique sera installée à Vernon. Elle sera vers nous et elle fonctionnera. Elle fonctionnera des années 50 à l'an 2000. Aujourd'hui, cette soufflerie est à l'abandon. Et là, une petite parenthèse, un petit clin d'œil, on essaye de transformer cette soufflerie, qui est le modèle, une réplique exacte de celle de Penmune 2, en un musée relatant l'histoire de l'aventure spatiale française. Alors, le transfert des aéroniamiciens qui ont mis au point cette soufflerie, leur transfert à Vernon est prévu. Mais à l'époque, il y a beaucoup de problèmes, et en particulier les problèmes de logement. Et finalement, ces aéroniamiciens ne viendront jamais à Vernon. La majorité sera embauchée à l'ISL, à l'Institut de Saint-Louis, sur le Rhin, et ils vont continuer à travailler là-bas. L'ISL fonctionne toujours aujourd'hui. Il y a une direction franco-allemande qui dirige cette société. Une autre activité, comme l'a dit tout à l'heure Yves Manner, les Anglais ont très vite abandonné l'idée de récupérer des plans, des dossiers, du matériel, des savants allemands. Et ils ont transféré les dossiers de V2 qu'ils avaient récupérés à la France. Ces dossiers vont être récupérés et malheureusement, il manque des plans, ces dossiers sont complètement incomplets. Et on va embaucher une douzaine d'ingénieurs et techniciens allemands de Penmune 2. On va les embaucher à plus tôt et on va leur demander de concevoir les plans, de réaliser les plans manquants, de façon à reconstituer un dossier de plan complet. Donc ces techniciens vont travailler. Quand les dossiers de plans sont terminés, certains vont regagner Vernon, le LRBA également. Ce LRBA qui va être créé le 17 mai 1946 et qui va doter la France d'un établissement militaire dont la vocation est de maîtriser toutes les techniques et technologies nécessaires à la réalisation d'un système d'armes comprenant un missile, ainsi que les équipements au sol permettant la mise en œuvre, le lancement et le guidage de l'engin. Il est précisé que cet établissement travaillera avec le CEPA d'Henri Moureux. Dès la fin 1946, donc 6 mois après la création, on va accueillir à Vernon un groupe d'ingénieurs et techniciens allemands. C'est le groupe du professeur Mébar. Là aussi, Mébar, c'est un chef d'entreprise. C'est le motoriste des chars allemands pendant la guerre. Son usine de Friedrichshafen est entièrement détruite. Et il va proposer ses services à la France. Ses appartenances au parti nazi sont connues. Mais il va arriver à Vernon avec une centaine de ses ingénieurs et techniciens. Et ils vont fabriquer des moteurs de chars. Un moteur de char de 1000 chevaux pour la MX-50. Ils vont aussi avoir un volet civil. Ils vont travailler sur des moteurs SNCF, des moteurs diesel pour la SNCF. Très rapidement, dans les années 52, quand leur usine de Friedrichshafen sera reconstruite, ils retourneront en Allemagne. Quelques mois plus tard, début 47, arrivent à Vernon les premiers techniciens allemands de Penmune 2. Ils seront une bonne soixantaine. Le nombre exact, on est en train d'essayer de le recenser, parce que les dossiers, les ingénieurs allemands vont passer, il y en a qui vont rester quelques mois, d'autres vont rester beaucoup plus longtemps, ils vont se faire remplacer, il y en a d'autres dont l'accès en France sera refusé. Ils vont travailler en Allemagne pour la France, ça va durer quelques temps. Alors pourquoi ont-ils été refusés? Pour l'instant, les dossiers, on ne les connaît pas encore. Quand on sait que Mébar était directeur à Vernon, vu le passé, on peut se douter que les autres avaient d'autres choses à se reprocher. Donc ces techniciens allemands qu'on va récupérer à Vernon, ça c'est 60, ils vont les répartir en deux groupes. Un groupe sur la propulsion, dirigé par le docteur Jo Hernick, et puis un groupe pour le guidage, avec à sa tête le docteur Otto Müller. Alors, dans un missile, il y a deux parties importantes. C'est la propulsion, le moteur et le guidage. Et donc, à Vernon, on a vraiment les deux équipes qui vont bien pour travailler sur les missiles. Et puis, leur travail, on leur demande de réaliser une V2. Ils sont encadrés par quelques ingénieurs militaires qui ont demandé aux ingénieurs allemands de refabriquer une V2 et même de faire une super V2, 40 tonnes de poussée. La V2 avait 25 tonnes de poussée. On veut aller plus vite, on veut aller plus fort et on demande de construire une super V2. Ça tombe bien, Heinz Bringer, un des ingénieurs allemands de Penmune 2, pendant les 2-3 mois qu'il a passé à Rigel avant d'arriver à Vernon, il a redessiné un moteur pressurisé avec un générateur à gaz, et donc de 40 tonnes de poussée à peu près. Et donc ce moteur, il va commencer à l'étudier sérieusement à Vernon. Puis très rapidement, le gouvernement va décider d'arrêter ce projet de V2 et Super V2. Alors, pour de nombreuses raisons, des problèmes économiques, des problèmes aussi d'opinion publique défavorable. La France a quand même souffert un peu des V2. Donc, c'est très mauvais. Quand la presse apprend que la France est en train de reconstruire des V2, il y a des campagnes de presse assez virulentes. Il y a aussi la France qui manque de finances. Nous sommes engagés dans la guerre d'Indochine. Donc il y a pas mal de raisons qui font que, rapidement, on va arrêter ce projet de V2 et de Super V2. Et un ingénieur militaire, Lafarge, préconise alors d'utiliser les compétences d'ingénieurs allemands pour former les ingénieurs français. On va leur dire, on va demander à ces ingénieurs allemands de former les ingénieurs français et de repartir à zéro, de refaire un petit engin de faible puissance, 4 tonnes de poussée, et ça sera la fusée Véronique, la fusée sonde Véronique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Véronique, c'est simplement la contraction de Vernon et d'électronique. Il y avait un peu d'électronique dedans. Nous sommes dans les années 50. Alors, cette solution de recommencer avec un tout petit engin de 4 tonnes de poussée, ça ne réjouit pas forcément les ingénieurs allemands. Ils régressent d'une vingtaine d'années et certains vont démissionner du RBA et rentrer en Allemagne. Bringer va se plier au jeu et va faire un petit moteur de 4 tonnes avec une pressurisation des réservoirs. Ça va être le moteur de Véronique. Wolfgang Pils met au point une table de lancement permettant de s'affranchir d'un système de pilotage sophistiqué et coûteux pour Véronique. Or, ce système est tout simple. C'est une table. Au bout des quatre, il met un empennage à la fusée Véronique, 4 filins accrochés au bout de cet empennage, et ces 4 filins sont enroulés sur un tambour. Quand la fusée part, les 4 filins se déroulent à la même vitesse. Ce système est rudimentaire, mais il permet de s'affranchir des perturbations du vent, en particulier au départ de la fusée. Au départ de la fusée, la vitesse est relativement faible et les gouvernes aérodynamiques qui équipent toute fusée sont inefficaces. Donc ce moyen permet de s'affranchir un peu de ces contraintes. C'est simple, c'est efficace, enfin efficace, plus ou moins efficace, c'est rudimentaire, ça ne coûte pas cher. Et les essais débutent en 1952 à Amagir. Et petit à petit, cette fusée sonde va se perfectionner. Et les gros perfectionnements importants vont arriver dans les années 57-58, où va avoir lieu l'année géodésique internationale. Cette année géodésique internationale est marquée par l'envoi de satellites par les deux grandes puissances, la Sputnik en 57, les Américains en 58. Et ces premiers satellites vont entraîner des découvertes scientifiques importantes, comme les satellites de Van Allen, par exemple. En France, le RBA va réaliser une nouvelle Véronique, naturellement baptisée Véronique AGI, année géophysique internationale, plus puissante, avec pour objectif de propulser à une centaine de kilomètres 60 kilos d'appareils scientifiques. Cette fusée va tirer d'Amagir et elle va permettre aux scientifiques français, Étienne Vassy et Jacques Blamont, de découvrir la haute atmosphère et de faire des découvertes assez importantes, en particulier sur la turbopause. Ces découvertes scientifiques, les premières obtenues à l'aide de moyens spatiaux, convainquent le gouvernement de l'intérêt scientifique des fusées réalisées à Vernon et prouvent la capacité de la France à maîtriser ces techniques. Elles donneront naissance à une véritable politique spatiale du gouvernement français. Et le professeur Blamont écrira quelques années plus tard, du point de vue tactique, ce n'était pas grand-chose, mais d'un point de vue scientifique, la découverte était importante. Si Véronique était un engin primitif, ce fut la démonstration du possible, une percée psychologique qui fit réfléchir le gouvernement, le ministre des Armées Pierre Guillaumin et probablement le général de Gaulle. Outre Véronique, le Lerbia est un établissement militaire et il va développer très rapidement un missile sol-air contre-avion, baptisé le Parka, qui sera produit à peu près à 250 exemplaires. Et son abandon sera programmé en 1958 et sera remplacé par le missile Hawk. Mais dans le cadre du Parka, les équipes du docteur Müller vont faire des avancées technologiques importantes dans le domaine des hyperfréquences. La collaboration avec Thomson dans ce domaine va déboucher en 1953 sur une première mondiale. C'est la première fois qu'on va réaliser un guide d'onde monté sur une rotule. Et ce guide d'onde monté sur une rotule va permettre de créer un autodirecteur sur le missile Parka, un autodirecteur millimétrique. Le RBA, toujours sous l'impulsion des ingénieurs allemands, va se lancer aussi dans un autodirecteur à infrarouge. Nous sommes en 1950. L'électronique, un transistor vient juste d'être inventé. Ça ne sera pas un succès. Le RBA va abandonner ça. Mais vous voyez, l'idée y était déjà, l'idée novatrice de l'infrarouge. Et puis, pour éclairer les cibles, les avions que doit atteindre le Parka, il faut créer un radar. Et le RBA, avec Thomson toujours, va développer un radar que l'on va baptiser Aquitaine. C'est un radar qui va devenir si performant qu'il va équiper les champs de tir d'Amagir. Et c'est lui qui, en 1965, va confirmer que la France a bien placé sur orbite un satellite. Ça va permettre aussi à Thomson, aujourd'hui Thales, de devenir un des leaders mondiaux dans le domaine des radars. Et aujourd'hui, les radars portent toujours le nom de province française. Le Normandie vient d'être installé récemment sur le bâtiment Monge qui suit les tirs de missiles. Toujours les équipes d'automulaire au LRBA, elles réalisent en 1958 la première plateforme initiale de guidage. Mais à cette époque-là, le RBA prévoit déjà d'y adjoindre un viseur d'étoiles. En effet, une plateforme inertielle, c'est précis, mais ça dérive dans le temps. Les Allemands en ont eu la preuve avec les dernières V2, hein, qui étaient guidées de façon inertielle. Et donc, l'idée est de mettre un viseur d'étoiles pour pouvoir recaler l'inertie. Ce viseur d'étoiles, il est aujourd'hui opérationnel, mais il est opérationnel depuis moins d'un an. Ça veut dire qu'effectivement, l'idée de cette avancée technologique était déjà dans l'air du temps. Et la créativité des Allemands s'illustre un peu partout. À Berman, quand ils commencent à s'apercevoir que l'on met des satellites sur orbite, qu'on envoie des fusées en haute altitude et que ces fusées sont guidées par des gyroscopes, ces gyroscopes sont des gyroscopes mécaniques. Et un gyroscope, c'est une toupie qui tourne avec des roulements à billes et des moteurs. Et les roulements à billes, à Berman a des doutes sur leur robustesse en haute altitude. Il fait chaud, il fait froid, on est en état d'apesanteur. Comment vont résister les roulements à billes? Et il risque de dégrader les performances des systèmes gyroscopiques. Et donc, il va travailler pour un système sans roulement à billes. Et il va inventer le panier magnétique. Donc, aujourd'hui, la société créée par M. Habermann après est très performante et en pleine expansion. Autre volet, hein, dans les années 60, la France se lance dans la force de dissuasion. On va créer une société, la CEREB, la Société d'études de réalisation des engins balistiques. Elle est chargée de la mise au point des missiles balistiques. Côté étatique, le gouvernement va créer la DMA, Délégation ministérielle pour l'armement, au sein du ministère de la Défense, pour superviser ce programme d'armement. Et dans ce cadre, on va créer de nombreux véhicules d'essai qui vont permettre de tester les différentes fonctions du missile. Et la CEREB va proposer, dans ce cadre-là, un lanceur de satellites. En remplaçant la charge militaire de la force de dissuasion par un troisième étage propulsif, on peut faire un lanceur de satellites. Les ingénieurs allemands Bringer, Müller et Habermann, plus quelques autres, participent avec les équipes du RBA à cette aventure de diamant. Le moteur du premier étage découle des études d'Anne Bringer à Rigel, 20 ans plus tôt. Et ce programme diamant va être couronné de succès, puisque le 26 novembre 1965, c'est la mise sur orbite du satellite Astérix et la France devient la troisième puissance spatiale. On va continuer un tout petit peu plus tard. En 1968, Aschbringer abandonne le générateur à gaz. Jusqu'à maintenant, depuis Rigel, les moteurs fusées étaient alimentés par des réservoirs pressurisés. Et Aschbringer revient au générateur, supprime le générateur à gaz pour revenir à la technologie utilisée sur la V2, la turbopompe. Et en 1968, il va créer un nouveau moteur qu'on va très rapidement baptiser Viking et qui va connaître le succès que l'on connaît puisque c'est le moteur qui va équiper le lanceur Ariane de 1 à 4. Donc, vous voyez encore une créativité, une découverte due à ces ingénieurs allemands. Et puis les exemples sont nombreux, il y en a d'autres beaucoup moins spectaculaires. Ce qui va permettre à Pierre Gérardin, directeur du RBA, qui résumait ainsi les tout débuts du RBA à la création, à Vernon, quand on va créer le RBA, à Vernon, on dispose d'un ancien atelier de chargement d'obus en cours d'agrandissement en juin 40, ayant appartenu à Brandt avant 1936. On rafistole quelques locaux en labo, d'autres en logement. De là date la cité de la Madeleine, le Burgdorf, où s'installera en famille la 60aine de spécialistes allemands de Penmune 2, dont la compétence nous donnera un sérieux et loyal coup de main. C'est vrai, tous les écrits de l'époque relatent le sérieux et la coopération des ingénieurs allemands à Vernon. Jacques Villain, pour les 50 ans du RBA, a déclaré indéniablement l'aide des ingénieurs allemands qu'ils ont apportée à la France juste après la guerre, a permis à ce pays, dont l'industrie avait été ruinée par l'occupation et la guerre, de limiter son retard sur les États-Unis et l'Union soviétique. Le rapport, puis leur coopération avec les ingénieurs et techniciens français, ont grandement contribué au fait que la France devienne, en 1965, la troisième puissance spatiale et occupe l'un des premiers rangs en matière de missiles et d'aéronautique. En outre, en venant travailler en France et en retournant pour la plupart, quelques années plus tard dans leur pays d'origine, ils ont été véritablement les précurseurs de l'Europe spatiale et aéronautique. L'aide dont parlent Jacques Villain et Pierre Gérardin se caractérise au RBA par une grande créativité. J'ai relaté ici les faits techniques importants et qui ont, eu des retombées spectaculaires. Mais cette créativité s'est exercée dans tous les domaines, aussi bien dans les méthodes de mesure, dans la résolution des problèmes et même dans les idées. Comme ces deux ingénieurs allemands qui démissionnent du RBA dans les années 56 pour aller aux États-Unis essayer de mettre au point un gyroscope à sustentation électromagnétique. Ils ont l'idée et en Europe, ils n'arrivent pas à trouver les moyens nécessaires, donc ils partent aux États-Unis pour réaliser ce projet. Donc, comme vous le voyez, comme pour les États-Unis et l'Union soviétique, les ingénieurs allemands ont apporté une coopération et pas mal de leur savoir-faire. Le RBA a su les faire fructifier et faire Et on doit beaucoup, les lanceurs Véronique, Diamant, Europa un peu moins, et Ariane doivent beaucoup à ces ingénieurs allemands.
Merci Christian Vanpouille. Je crois que vous avez un petit film à nous montrer.
Un petit résumé.
Pour illustrer votre propos, est-ce qu'on peut le voir avant d'aborder le débat avec vous?
Nous sommes en mai 1946 à Vernon. Le ministère de l'Armement a décidé la création du LRBA afin d'y rassembler les moyens nécessaires à la réalisation de futurs missiles et fusées. En effet, la Seconde Guerre mondiale, avec la tristement célèbre V2, a fait apparaître l'importance stratégique de maîtriser la technologie des fusées. Les Allemands sont les plus avancés dans ce domaine. Dès 1945, après la victoire, les Alliés se disputent l'héritage. En France, 120 ingénieurs allemands de Peenemünde 2 sont engagés. Leurs premiers travaux complétaient les dossiers des V2 fournis par les Anglais.
Les Français avaient reçu des Anglais des documents, des plans, des dessins et tout ça. Mais il y avait des dessins qui manquaient là-dedans. Ce n'était pas complet. Et pour compléter le jeu de plan, là, on était embauchés.
Quand nous sommes arrivés ici à Vernon, c'était en deux groupes, une fois 30 pour la propulsion, une autre fois 30 pour le guidage. C'était d'abord des baraquements en bois. Combien la possibilité pour 30 personnes?
En 1947, 70 Allemands sont installés à l'écart dans la forêt de Vernon. Ils travaillent avec seulement quelques militaires français. Une cohabitation difficile, d'autant plus que les Allemands reçoivent leurs ordres directement de Paris. À cette époque, le LRBA ne dispose pas d'infrastructures suffisantes pour reconstituer et tester les V2. Pour ne pas prendre de retard, des études sont engagées pour une super V2.
Des premiers travaux, c'est des... le générateur à gaz pour cet engin avec une poussée de 40 tonnes.
Mais l'état-major ne croit pas en ce projet qui est abandonné en 1948.
Et là, on a décidé à laisser porte tomber cette grand moteur et commencer avec un petit, avec un moteur de 4 tonnes de poussée.
Ce sera le moteur de la fusée sonde Véronique. En parallèle, les équipes travaillent sur le missile Parka. Progressivement, des ingénieurs français arrivent sur le plateau. Les mois passant, les ressentiments qui existent envers les Allemands s'estompent progressivement. C'est l'époque des pionniers, tout est à inventer. La créativité est la grande force du LRBA, mais elle est malheureusement bridée par des contraintes budgétaires. L'absence de politique ambitieuse en matière de fusées freine les ardeurs, mais pas la passion. En 1957, les Alliés lèvent l'interdiction faite aux Allemands de disposer d'une industrie des fusées. Beaucoup rentrent chez eux et se mettent au travail. Ils développeront plus tard, en partenariat avec le LRBA puis la SEP, le lanceur Europa et Ariane. Qui aurait pu dire que la majorité des Allemands arrivés au LRBA en 1946 retourneraient par la suite dans leur pays et que la plupart bâtiraient l'Europe spatiale d'aujourd'hui? Peut-être pas Barré, mais il nous a permis de vous conter cette page d'histoire.
Bon, ben voilà. Avant que vous laisser la parole pour que vous puissiez poser les questions, je voudrais en poser une à nos deux intervenants. C'est quand même quelque chose qui frappe dans tout ce que vous nous avez raconté. C'est l'extraordinaire ressource en termes humains laissée par l'Allemagne pour arriver à irriguer trois pays au moins, hein, les États-Unis, la France et, comme vous l'avez expliqué, la Russie. Il fallait avoir un vivier absolument considérable, puisque à partir de ces trois contingents, finalement, les trois pays ont réussi à développer quelque chose de cohérent. Donc c'était assez complet de chaque côté. Comment expliquer que non seulement il y a l'avance technologique, mais il y a aussi cette espèce de potentiel humain énorme laissé par les Allemands? D'où vient-il, ce potentiel humain? Qui veut répondre? Yves Le Maner.
Il vient de la taille même du centre de recherche de Peenemünde. À son apogée, il y a jusqu'à 12 000 ingénieurs et techniciens qui travaillent sur le programme de missiles A4. Le système de Peenemünde, c'est un système de programme noir, c'est-à-dire un programme militaire secret dans lequel il y a un objectif et pour lequel les capitaux sont d'une certaine façon illimités. Il faut atteindre cet objectif par tous les moyens. Et la stratégie de Von Braun et de son équipe, c'est de concentrer sur place tous les cerveaux disponibles. Donc il a fait venir des Technische Hochschule, les universités techniques allemandes, et des grandes sociétés comme Siemens ou d'autres, les ingénieurs qui l'intéressaient dans tel et tel domaine. Et donc il y a un phénomène d'émulation. Il y a aussi le fait que ces hommes ont été à l'abri de la guerre pendant très longtemps. Ils ont un mode de vie très privilégié à Peenemünde. Et lorsque donc la guerre tourne mal pour le régime nazi, il y a sur le marché des milliers d'ingénieurs et de techniciens qui ont une vingtaine d'années d'avance sur tout ce que fait la concurrence sur le reste de la planète. Ces hommes savent qu'il est impossible de travailler en Allemagne, qui est occupée, qui est démembrée, qui est au banc des nations dans les années qui suivent le conflit. Et en revanche, il y a des opportunités. Alors, les opportunités, c'est essentiellement les États-Unis, parce qu'on sait qu'il y a l'appareil technologique, qu'il y a les capitaux disponibles, qu'il y a le contexte de guerre froide contre l'Union soviétique. De par leur profil nazi, ces hommes ne sont pas trop tentés par la solution soviétique, pas plus non plus par la solution française. Ils ne se font pas d'illusions sur les finances de notre pays à ce moment-là. Ils ne veulent pas non plus prendre le risque d'un séjour dans les prisons anglaises. Par conséquent, c'est une sorte de calcul rationnel que la plupart font d'aller aux États-Unis.
Alors, il y a une deuxième question, c'est un peu le fait, l'oubli finalement des origines nazies de beaucoup de ces officiers. Comment expliquer que les Américains aient été aussi rapides dans leur compréhension des enjeux qu'il y avait à ce moment-là? Puisque ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit que la bombe atomique, elle n'était pas propulsée par une fusée, mais bien par un simple avion. C'était un bombardement tout à fait classique. Et donc, l'ère du missile n'avait vraiment pas commencé. Donc, c'était vraiment la preuve que le V2 était très en avance. Mais que les Américains, au moment où ils préparent le débarquement, préparent également la récupération de Von Braun et des équipes, est quand même assez surprenant qu'il y ait une telle simultanéité. Comme si vraiment, ça faisait partie d'une stratégie de... Enfin, c'était une priorité absolue à l'époque. Comment l'expliquer? Christian Van Pouille.
Déjà, les Américains ont récupéré une centaine de V2. Donc, il y a eu des tirs de V2. On a vu tout l'intérêt que cela pouvait avoir de tirer des V2 depuis le désert américain et de faire des expériences scientifiques. La France n'a pas eu cette chance. On n'a pas récupéré d'engin. Donc, l'intérêt des fusées V2, des fusées, a tout de suite été, concrète pour les Américains. Ils ont vu à quoi ça pouvait servir. Ils ont vu ce qu'on pouvait en faire. En plus, ils ont quand même la bombe atomique. Et je pense qu'à l'époque, elle est trop importante, trop lourde pour rentrer dans une V2. Donc, ce n'est pas une force de dissuasion directement opérationnelle, ce cadre-là. Mais je pense surtout qu'effectivement, c'est le fait d'avoir ce matériel disponible tout de suite et de pouvoir faire des tests. C'est un peu ce qui s'est passé en France quand on a vu quand certains Français ont assisté aux essais de Cuxhaven en Allemagne, avec des ingénieurs allemands qui ont mis en œuvre des V2. Les ingénieurs français qui ont assisté à ces essais, en particulier Henri Moureux, ont été très, très impressionnés par ces moteurs. Et on craint que reconstruire ces systèmes-là soit très, très pénalisant. La preuve, c'est qu'on voulait les reconstruire et faire les essais dans un gouffre, à un Gramma, dans le centre de la France, parce qu'on avait peur que des perturbations et du bruit que ça pouvait engendrer. Donc, il y a une petite réticence en France au niveau des... Enfin, pas une réticence, mais une petite méfiance vis-à-vis de des fusées. Méfiance qui, a priori, n'a pas eu lieu aux États-Unis. Cette fusée a été adoptée de façon... quasiment immédiate après la guerre. En plus, les Américains n'avaient pas eu à souffrir des V2.
Yves Le Maner.
Et je pense qu'il y a aussi un autre facteur, c'est que l'ennemi a changé, c'est l'Union soviétique immédiatement. Donc tout ce qui peut être utile dans un combat futur contre l'Union soviétique intéresse le pouvoir américain. Donc il n'y a pas eu d'ambiguïté. En ce qui concerne les relations avec l'atome, certes, comme le dit Christian, il est impossible de miniaturiser suffisamment les premières bombes atomiques entre, disons, 45 et 54 pour qu'elles entrent dans une enveloppe de V2. En revanche, le concept, il a tout de suite été perçu. Il y a plusieurs hommes qui l'ont vu en même temps. Il y a un personnage très remarquable qui est Reginald Jones, qui est le conseiller scientifique de Churchill, qui lui anticipe très vite le clonage entre la fusée et la bombe atomique. Les spécialistes de l'armée américaine ont compris aussi, et les soviétiques ont peut-être compris avant tout le monde, parce qu'eux n'avaient pas la même force de bombardement stratégique que les Américains. Et Staline, qui est loin d'avoir été toujours lucide en matière stratégique, là, il a été en la matière très pertinent, puisqu'il a donné les moyens rapidement à Korolev pour bâtir des programmes de missiles qui sont fondamentalement des missiles militaires. Même si on retient Spoutnik, même si on retient Gagarine, il ne faut pas oublier que les premiers lanceurs sont des engins à la fois militaires et civils. On peut y mettre un satellite comme on peut y mettre une ogive.
La différence, quand même, c'est que dans la bataille Amérique-Russie à ce niveau-là, URSS, il y a quand même d'un côté von Braun et de l'autre côté quand même des têtes russes, pas uniquement des techniciens allemands. Du côté russe, il y a vraiment un affrontement finalement entre un ex-nazi et des ingénieurs russes de très haut niveau.
Alors, il y a une différence d'exposition des ingénieurs par rapport à l'opinion publique. En Union soviétique, le système de construction des fusées, c'est un domaine de l'hypersecret. Le nom même de Korolev sera inconnu jusqu'à sa mort.
Mais von Braun le connaissait, lui, quand même.
Alors, von Braun l'a peut-être connu, ils se sont croisés peut-être à Cuxhaven dans les effets backfire. Mais en revanche, aux États-Unis, on ne peut pas procéder comme ça, puisque dès le début, il y a une médiatisation. Eisenhower était très réticent pour la version militaire de l'espace. Donc, à partir du moment où Werner von Braun est sorti du bois comme le sauveur de l'honneur américain, il a été exposé médiatiquement. Il faut savoir qu'il a joué un très grand rôle dans les années 50 comme vulgarisateur de la conquête spatiale dans les émissions de Walt Disney. C'est devenu une vedette majeure aux États-Unis. On ne pouvait pas le cacher. Simplement, ce qu'on pouvait cacher, c'était son étiquette nazie. Et par tous les moyens, on s'était forcé aux États-Unis de le faire. Lui-même a écrit son histoire. Il était très charismatique, donc son entourage l'a protégé. Et c'est vraiment après sa mort qu'on a commencé à égratigner la statue. Mais il faut savoir qu'à Huntsville, dans l'Alabama, où il a travaillé le plus longtemps, il y a un gigantesque centre de conférences qui s'appelle Werner von Braun Center. C'est un personnage respecté. Et le bouquin de Neufeld que j'ai là est quasiment interdit de séjour dans les librairies de Huntsville parce qu'il donne une version noire du personnage.
Il devait y avoir aussi un aéroport qui devait porter son nom, et finalement, ça a été en Allemagne.
Oui, ça, c'est un pied de nez de l'histoire. C'est que dans la foulée du triomphe américain de 69, d'Apollo, le prestige de von Braun est ressorti à la surface en Allemagne fédérale. Et donc, le projet a été avancé de baptiser l'aéroport de Berlin du nom de Werner von Braun. Et in extremis, l'affaire a été bloquée par un petit grain de sable de l'histoire, c'est que l'un des officiers supérieurs français en poste à Berlin à ce moment-là, un officier général d'aviation, avait séjourné quelques mois dans l'usine Mittelwerk de Dora comme déporté, et il a tout de suite fait remonter des protestations, et ça a été bloqué diplomatiquement.
Voilà, une autre apparition de la V2, c'est, comme vous le signalez dans le texte que vous avez publié, c'est la fusée de Tintin, donc en 1953, d'Objectif Lune, qui est quand même un V2, enfin très largement inspiré de la V2.
Alors ce qui se passe, c'est que les fusées de Peenemünde, c'est les premières fusées qui ressemblent à ce que nous, de nos jours, on imagine être une fusée. ça, il faut voir que les fusées initiales dans les années 20, début des années 30, elles n'ont pas du tout cette forme caractéristique. Ce sont des tubes, tout simplement, extrêmement primitifs. Donc, à partir du moment où la V2 a été connue du monde entier, d'abord par les actualités cinématographiques allemandes à partir du mois d'octobre 44, puis ensuite par les actualités alliées au lendemain de la victoire, on avait un modèle. Et on sait aujourd'hui que Hergé a vu à Bruxelles, dans une exposition organisée en 45, une V2 qui avait été ramenée par les Américains de Dora. Cette V2 était présentée dans sa configuration d'essai, c'est-à-dire un arlequin blanc et noir qui servait tout simplement pour vérifier si, oui ou non, l'engin entrait en rotation au moment du lancement. Donc c'était très graphique. Simplement, Hergé a transposé blanc-noir, il en a fait rouge-blanc. Il a pris la forme générale de la fusée d'Hergé, mais il y a un petit détail quand même qui cloche, c'est que lui a mis 3 pieds, alors que la V2 a 4 dérives, tout simplement parce qu'avec 3 pieds, c'est plus facile à rendre homothétique. Mais il y a une paternité évidente. Et ça a contribué, d'une certaine façon, à enlever le sceau militaire et criminel du V2.
Alors maintenant, c'est à vous, si on veut que vous ayez le temps de poser quelques questions, c'est le moment de le faire. Voilà, monsieur là-bas.
Je voudrais revenir à la question de la bombe atomique. J'ai eu l'année dernière l'occasion de passer un certain temps à Peenemünde et je parlais avec beaucoup de gens et ils ont eu. Naturellement, c'était pas encore possible d'avoir une miniaturisation, mais cette bombe atomique était dans toutes les esprits. Et ils auraient pu faire comme les Américains, affréter un grand avion, le sauter et le larguer sur Londres, etc. Et utiliser par exemple le V2 comme une espèce de pluie avant que la grande bombe tombe. Mais est-ce que vous avez peut-être quelques détails techniques sur le développement de la bombe atomique en Allemagne?
Alors, oui, là, c'est un sujet qui est maintenant bien connu parce que les archives sont accessibles. Il y a un très grand livre, c'est celui de Richard Rhodes, Making of the Atomic Bomb, qui donne vraiment la clé du problème. L'équipe de Werner Heisenberg, qui était prix Nobel de physique, qui a mené en Allemagne les travaux de recherche sur la bombe atomique, n'a jamais eu le degré de priorité que le régime nazi a accordé à Peenemünde. Et à partir de 1942... le programme nucléaire allemand rentre pratiquement en situation dormante. L'essentiel de l'argent injecté dans les programmes d'armement va à la fusée et va surtout aux avions en réaction. Donc, dès la fin 1942, le Reich nazi a pris la décision de laisser tomber son programme atomique parce qu'il perçoit qu'il ne sera pas prêt suffisamment tôt. Et c'est exactement le calendrier inverse des Américains qui lancent le programme Manhattan à ce moment-là. Le parallèle est tout à fait intéressant. En revanche, il y a toujours eu des échanges scientifiques, on le sait maintenant, par exemple, entre Von Braun et Heisenberg. Mais ce qui intéressait Von Braun, ce n'était pas la bombe atomique, c'était le moteur atomique dans l'optique de fusées futures.
Est-ce qu'il reste encore des V2?
Oui. Il y en a plusieurs. Dans le musée que je dirige, il y en a une de présentée. Il y en a deux aux États-Unis. Deux en Grande-Bretagne, deux en Australie, une en Allemagne. Il faut savoir qu'il y en a eu 6 000 de fabriqués, ce qui est quand même pas anecdotique. Oui.
Une autre question?
Là, comme on parlait de la bombe atomique et du projet Manhattan, alors, il faut savoir que le projet Manhattan a été construit en partie avec de l'eau lourde française. Et la personne qui a fait passer l'eau lourde française via l'Angleterre aux États-Unis n'est autre que Henri Moureux. C'est lui qui fait passer en 1940 l'eau lourde française du Collège de France aux États-Unis, et cette eau lourde va servir au projet Manhattan.
C'est évoqué par le film de Téchiné de façon ambiguë, le film sur l'Exode.
Vous avez parlé du rôle joué par les savants allemands, par les ingénieurs allemands au LRBA et dans les sociétés étatiques ou para-étatiques qui étaient autour. Or, ce que l'on constate, c'est que l'industrie privée d'armement française, et notamment les industriels d'équipement, ont connu une renaissance presque miraculeuse au cours de la deuxième moitié des années 40. Alors, est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu aussi des ingénieurs allemands qui ont été distribués chez ces équipementiers privés et dans quel domaine?
Oui. Il y a eu énormément d'ingénieurs et techniciens qui ont été embauchés dans différentes entreprises, hein, Snecmore. Enfin, il y a eu pratiquement toutes les entreprises aéronautiques françaises ont reçu des ingénieurs et techniciens allemands. En plus, quand on regarde, le RBA ne travaillait pas tout seul. Hein, c'était plutôt un centre de recherche et d'études. Et on travaillait avec l'industrie privée, avec SAGEM, avec Sphena, enfin, des choses comme ça. Donc les ingénieurs allemands qui étaient au RBA donnaient des conseils aussi aux sociétés privées. Et donc, c'était vraiment un vivier de connaissances, aussi bien du côté étatique, avec des retombées chez industriels qui fabriquaient, ou directement chez industriels. Pratiquement, toutes les grandes sociétés françaises ont eu des ingénieurs, que ce soit dans le domaine aéronautique comme dans le domaine maritime. Au niveau des sous-marins, les bâtiments de surface, tout ça, il y a eu des ingénieurs allemands un peu partout. Hein. L'apport est vraiment très, très important. Il y a Jacques Villain qui a fait quelques documents là-dessus. Et on voit qu'effectivement, c'est dans tous les domaines de l'industrie que la présence allemande a été ressortie.
Ce n'était pas claironné pour des raisons d'orgueil national et puis en même temps pour des raisons de mémoire vive. Parce qu'il faut bien imaginer quel était le ressenti des populations par rapport aux Allemands. Il y avait encore une haine à vif dans les années 45 à 51. Et on dispose, grâce au recueil de mémoire qu'a fait Christian Vampouille, de multiples indices qui montrent que l'intégration des Allemands dans la société provinciale n'a pas été facile. Il y avait des petits règlements de compte mémoriels vis-à-vis des ingénieurs et de leurs enfants, souvent, très avant, dans les années 50. Le mythe du Bosch est resté longtemps fort dans notre pays. Ça rend d'autant plus étonnant le rapprochement franco-allemand après.
Oui, on peut le comprendre. J'ai une deuxième question. À un moment dans votre exposé, vous avez évoqué une décision acceptée par les Américains au milieu des années 60, si je me souviens bien, autorisant les Allemands, enfin l'État allemand, la République fédérale allemande, à reconstituer une industrie des fusées.
En 57.
Dès 57, peut-être.
Dès 57.
Or, vous avez signalé un retour d'un certain nombre de savants allemands qui sont retournés dans leur pays, ce qu'on peut comprendre. Or, il n'y a pas eu de programme majeur allemand, en tout cas germano-allemand. Il y a eu des programmes en coopération, non. Mais pas de grands programmes allemands que l'on connaisse. Alors, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y avait des restrictions écrites ou non écrites dans ce domaine?
Bon, jusqu'en 1957, l'industrie allemande ne travaille pas dans le domaine des fusées. Quand en 1957, les Alliés lèvent l'interdiction, quelques ingénieurs et pas en quantité énorme, regagnent l'Allemagne et vont se mettre à travailler sur les fusées. Mais à l'époque, il n'y a pas de grand projet. Le seul projet qui va apparaître, c'est le projet Europa dans les années 63-64. Et les Allemands vont être chargés de faire le troisième étage, Astris, de la fusée Europa. Et c'est dans ce cadre-là que ça va commencer à travailler en Allemagne. Et avec quelques déboires, puisque ces ingénieurs et techniciens allemands sont peu nombreux, l'Allemagne a quand même perdu pas mal de compétences dans cette dizaine d'années où elle n'a pas travaillé dans le domaine des fusées. Il y a eu quelques échecs d'Europa qui étaient dus au troisième étage de l'étage allemand.
Mais Europa était un programme européen.
Européen, justement. Mais construit de façon bizarre.
Oui, chaque pays faisait son étage. Voilà. En n'ayant pas forcément les mêmes mesures, mêmes unités de mesure. Mais les Allemands ont également participé à des programmes de missiles, mais en coopération avec les Français, par exemple. Alors, y avait-il, malgré l'autorisation donnée en 1957, une interdiction, une réticence exprimée par les alliés de l'Allemagne, qui est un pays riche, plus riche que la France, à vouloir se développer une industrie indépendante des missiles ou des fusées, dès les années 60?
Je sais pas s'il est d'accord, mais a priori, les Allemands n'ont pas eu une volonté de développer des missiles propres, sur fond propre. Hein. Ils ont tout de suite travaillé plutôt en coopération avec les Français, avec...
Et puis ils avaient le parapluie américain. Donc pour eux, la protection missile venait de l'allié américain.
Les Anglais l'avaient aussi.
Ils n'étaient pas exposés de la même façon.
On va vérifier que d'autres personnes peut-être veulent poser des questions,
fait,
si ça ne vous dérange
fait.
Pas.
Je vais donner lui.
Merci beaucoup. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, ils avaient l'interdiction atomique, mais pas assez tout.
Ah, vous allez peut-être pouvoir le récupérer si personne d'autre ne voit aussi, monsieur Lama.
En réalité, il y avait trois lieux Peenemünde, Mittelberg, il y avait
un troisième lieu dans des carrières souterraines face à la côte anglaise. De là ont été lancés toutes ces V1 et 2, etc. Est-ce que vous connaissez ce lieu?
Oui, j'occupe l'un de ces lieux avec le musée que je dirige. Mais paradoxalement, aucun V2 n'a été lancé de ces sites de tir. Ça, c'est un grand débat stratégique qui anime les militaires allemands et l'équipe de Peenemünde. C'est comment lancer un missile stratégique. Il y a deux écoles dès le début. Les ingénieurs, Von Braun en particulier, sont favorables à des sites protégés parce qu'au début, le V2, c'est un engin extrêmement complexe qui demandait toute une procédure de remplissage des réservoirs avec de l'oxygène liquide, avec de l'éthanol, des réglages multiples. Donc ça demandait, dans les premiers temps, plusieurs heures. Ça a été progressivement réduit, comprimé à 20-25 minutes. Les militaires, eux, dès le début, ont été conscients que seule la mobilité était valable. Parce qu'à partir de 1943, tout le monde a compris en Allemagne que la maîtrise du ciel, elle est alliée. Et quelle que soit l'épaisseur des bombes, les sites seront attaqués et seront saturés par les bombardements. Donc tous les grands bunkers qui ont été édifiés par l'armée allemande dans le Cotentin et dans le Pas-de-Calais pour lancer les missiles V2 contre Londres n'ont jamais servi. Ils ont été massivement bombardés, les chantiers ont été asphyxiés, et donc c'est la solution des militaires qui s'est appliquée, puisque tous les missiles lancés en opération entre septembre 1944 et mars 1945 l'ont été par des unités mobiles de tir. Et quand on regarde bien le devenir des missiles à la fin du XXe siècle, souvenez-vous de la guerre du Golfe et de la peur panique qui s'est emparée du monde occidental avec le lancement des SCUD. Ces SCUD étaient lancés par des unités mobiles et qui étaient très difficiles à identifier. Un petit point de raccord entre ces deux histoires apparemment lointaines. On a des éléments aujourd'hui en archives qui montrent qu'un petit nombre d'ingénieurs allemands, dans les années 50, ont été recrutés par la République arabe unie, par l'Égypte donc, et la Syrie, de façon à travailler sur des programmes de missiles militaires.
Une autre question, pour terminer peut-être, parce que je crois que l'heure tourne, et que... Si, monsieur...
Oui, je voulais peut-être plus souligner donc le fait, plus ou moins bien compris. Si, en tout cas, au début, donc les fusées avaient pour but la destruction, n'est-ce pas? Et par la suite, leur emploi a totalement différé puisqu'ils il s'agissait dans le cadre en plus d'une guerre, c'est une coopération européenne. Donc j'aurais aimé souligner ce fait-là, mais les fusées, en fait, si je vois bien, si on peut établir un arbre généalogique, en fait, il y a quand même des fusées qui servent toujours. Qui sont le prolongement des V2 dans une version plus futuriste et qui servent quand même aussi à la destruction. Donc maintenant on a plusieurs types de fusées qui sont à la fois à visée idéaliste, c'est le jeu de mots, et d'autres à visée destructive.
C'est la visée destructive qui a été initialement la plus forte et de loin. Le V2 et tous ses successeurs de la fin des années 40, années 50, sont fondamentalement des missiles militaires. Après, le basculement va se faire dans les années 60 parce que dès qu'on atteint l'équilibre de la terreur, qu'on a mis ensemble des missiles et des ogives, et qu'on a la possibilité de s'autodétruire avec deux blocs géopolitiques opposés, on va transposer la lutte sur un plan idéologique, médiatique, esthétique, par le biais de la conquête spatiale. Donc Saturn V, c'est une fusée très intéressante, parce que c'est pas un missile balistique, alors que les fusées antérieures sont pratiquement toutes des missiles balistiques, capables d'emporter des charges. Et la seconde rupture qui vient après, c'est Ariane, où là, on est dans une logique commerciale, pas seulement, mais en grande partie commerciale. Donc, vous voyez, on va basculer là. Mais toute l'enfance et l'adolescence des fusées, ça a été une enfance et une adolescence militaire. Et le V2 tel qu'il a été conçu, c'est une arme étymologiquement terroriste, puisque les concepteurs militaires savaient très bien qu'en délivrant une tonne d'explosifs 10 fois, 20 fois, 30 fois, ça n'équivalait même pas à un box de forteresse volante. Donc c'est bien sur la destruction sans possibilité de défense qu'était fondée l'attaque par fusée.
Sachant que, comme vous l'avez expliqué, finalement, c'est la seule arme qui a fait plus de victimes pour sa production que quand elle a été utilisée.
Exactement.
Comme arme de destruction.
Si on fait en effet la balance entre les 6 000 victimes civiles et les quelques 20 à 25 000 déportés qui ont péri pour la construire, c'est un cas absolument unique dans l'histoire des armements.
Voilà le lien avec l'actualité, très chaude.
C'est une fusée.
Voilà, donc il y a une filiation directe.
Moi, j'ai pas d'informations supplémentaires.
Sauf qu'elle avait quand même une portée supérieure à celle d'hier, puisque c'est 3200 km,
oui,
je crois.
Oui.
Et par rapport à, vous disiez,
250-300 km pour les premiers missiles.
Voilà.
Mais il faut savoir que la Semyorka qui a envoyé Spoutnik dans l'espace, c'était déjà une fusée intercontinentale qui était en mesure de frapper le territoire américain. C'est comme ça que ça a été compris aux États-Unis. Ça n'a pas été vu d'abord comme une belle aventure scientifique.
Tout à fait. Ça, c'est quand même remarquable de voir le coup d'accélérateur que donne une période de guerre de ce type à finalement au savoir. Quoi. Il y a un lien assez troublant.
Il y a toujours des liaisons dangereuses entre la guerre et la science.
Entre la guerre et le savoir.
Ouais.
J'ai une dernière question.
Dernière question.
Est-ce qu'il y aurait certains ingénieurs juifs de très haut niveau qui auraient pu échapper au camp de concentration en travaillant à Peenemünde?
Non. Non. Il faut savoir que dans les années 30 en Allemagne, les ingénieurs juifs travaillant dans la recherche fondamentale ont rapidement compris ce qui se passait. Beaucoup ont émigré en France et aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que Peenemünde, c'est un établissement nazi. Il y a une Gestapo, il y a une hiérarchie nazie, il y a des cérémonies, il y a la jeunesse hitlérienne. Donc il était hors de question que puisse travailler un ingénieur juif sur le sol de Peenemünde. Ça ne s'est jamais fait.
Même du niveau d'Einstein?
Non, 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 non. Non. Non,
je pensais qu'ils auraient pu faire une exception éventuellement.
Non, 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 non. Il y a eu des correspondances, on le sait grâce au bouquin de Neufeld, entre Einstein et von Braun au tout début des années 30, mais avant que le nazisme s'installe.
Ben, merci à tous. Et puis rendez-vous donc pour le deuxième volet,
Le 4 mai.
Le 4 mai, voilà.